RMC, les grandes gueules.
Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause.
Pas mal. Emmanuel Macron, le président de la République, inaugure aujourd'hui au large de Saint-Nazaire une série de parcs éoliens. Enfin, le premier, parce qu'il va y en avoir bon nombre d'autres qui vont être installés parce que le chef de l'État veut accélérer le déploiement des parcs éoliens.
Oui, le chef de l'État est attendu là d'ici quelques minutes à Saint-Nazaire pour ce tout premier champ offshore qui entre en service au large des côtes françaises. Alors, il y en a 80 éoliennes qui sont réparties entre 12 et 20 kilomètres au large du Pouliguen et du Croisic sur 78 kilomètres carrés. C'est une puissance installée de 480 mégawatts capable d'alimenter 700 000 personnes. Ça a coûté 2 milliards d'euros et on en attend d'autres, hein, une quarantaine d'autres parcs qui sont envisagés par l'État en Bretagne, mais aussi en Méditerranée pour la première fois. Alors celui-là en Méditerranée sera un peu plus loin, parce que le problème des parcs éoliens offshore, alors il y a problème de la biodiversité, des poissons, de la pêche, mais il y a aussi le fait que ça se voit. Et la ligne d'horizon, c'est une ligne d'éoliennes, notamment pour ceux qui sont Pouliguen au Croisic. Et c'est vrai que ça crée du mécontentement. Alors en Méditerranée, on va les mettre plus loin. On a maintenant le projet de pouvoir les installer un peu plus loin de la côte. Ça se verra pas. Ça coûtera sans doute plus cher. La France est en retard hein, par rapport à d'autres pays comme le Royaume-Uni. Et donc, Emmanuel Macron veut accélérer. Alors Emmanuel Macron, qui dit toujours un peu tout et son contraire, nous avait dit pendant la campagne présidentielle, l'éolien ça suffit. Là, visiblement, dans les cartons du gouvernement, il y a un projet pour accélérer les procédures, parce qu'il y a beaucoup de procédures qui sont freinées par des recours en justice. Il faut aujourd'hui en moyenne 10 ans pour qu'un site éolien entre en service en France, alors qu'il en faut 5 en Allemagne, 6 au Royaume-Uni et au Danemark. Eh bien, au Danemark, ça va beaucoup plus vite. D'ailleurs, le Danemark a installé sa première turbine en 1991 et Macron veut accélérer les procédures, éviter qu'il y ait des recours comme ça des citoyens. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il faut accélérer l'installation des éoliennes en France ?
Alors, le parc hein, qui sera complètement en service à la fin de l'année va avoir une puissance de ce qu'on appelle 480 mégawatts. Mais combien de foyers il va alimenter?
700 000 personnes.
Et il avait dit, c'est toujours bien de le répéter.
Si tu m'écoutes pas.
C'est pour les mauvais élèves. On y va alors. Qui est OK ou pas?
Mais. Moi, je peux pas. Mais moi, j'aimerais juste savoir.
Il n'y a pas d'engouement autour de la table.
Non aucun engouement.
Pourquoi, Barbara?
Non, parce que alors, les gens qui nous écoutent à la radio, vous avez le son, vous n'avez pas l'image. Mais ceux qui nous regardent sur RMC Story voient derrière Alain l'horreur de ce que ça signifie pour les gens qui habitent le Croisic et bientôt pour ceux qui habitent en Bretagne, ceux qui habitent... On rappelle, EDF, RTE avait dit « Nos soucis, ne vous inquiétez pas, ce sera une tête d'épingle à l'horizon. » Ah, bah elle est belle la tête d'épingle à l'horizon. C'est une mocheté sans nom. Ah, en dehors de la pollution visuelle, qui n'est déjà pas anecdotique. J'aimerais savoir si les écolos n'ont pas de problème avec la pollution pour la biodiversité, en particulier pour les mammifères marins qui ont une très grande sensibilité acoustique, et aussi bien la construction, l'exploitation que le démantèlement de ce parc éolien, ça rend extrêmement vulnérables les mammifères marins. Donc, ça ne pose aucun problème aux écolos de détruire une partie de la population marine, de la population halieutique aussi, c'est-à-dire tout ce qui est relatif aux zones de pêche. On va créer des effets récifs parce que tout ça, ça flotte pas sur des bouées.
Non.
Tout ça, c'est du béton, c'est de l'artificialisation du sol marin. Alors, comme on commence à ne plus supporter l'éolien terrestre, on se dit, ah tiens, allez, on va aller bétonner les fonds marins qui sont déjà dans un état catastrophique de pollution, au plastique, aux pesticides, à tout ce qui est rejeté dans la mer. Et maintenant, on va avoir ces horreurs. 40 parcs éoliens, monsieur Macron, qui nous a fermé Fessenheim, bien sûr. Et qui maintenant va aller nous polluer l'Atlantique, nous polluer la Méditerranée avec ce béton, parce que dans quelques années, il faudra démanteler ces horreurs.
Exactement.
Donc moi, je dis, c'est encore une fois de la gestion à la petite semaine. On est sur...
Oui, mais si on veut se passer du carbone, si on veut un mix,
bah déjà là,
eh bien le mix, c'est l'éolien, c'est le solaire et un peu nucléaire, c'est ça.
Hein. Le mix énergétique, c'est pas forcément d'aller pourrir la biodiversité marine. Moi, je suis désolée. Le respect de la faune et de la flore, ça devrait être la base. Aujourd'hui, la Terre, elle est limitée dans ses ressources. De toute façon, il y a un très grave problème de dépenses d'énergie.
Comment on passe du carbone si tu veux pas qu'on fasse de l'éolien?
Il va falloir trouver des ressources, et en particulier, il y a des ressources qui sont à trouver, mais il y a aussi des comportements les comportements de consommation, de consommation, de production à revoir, au lieu d'être dans la
consommation. Après, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas toujours du vent, parce que c'est comme le solaire, c'est, voilà, ça fonctionne pas 24 heures sur 24, même s'il peut y avoir du vent en Atlantique, et certains disent, c'est pas forcément rentable, l'éolien.
Non, mais là, on parle de l'éolien en mer, mais même sujet sur la terre, hein, la population n'en veut pas. Et on se rappelle tous ceux qui sont nés dans les années 80-90, il y avait l'électricité qui était produite et on avait ces grands fils avec ces grands poteaux dans nos villages, dans nos villes où l'électricité passait. On a fini par enterrer tellement c'était moche et ça gâchait le paysage urbain. On refait la même bêtise alors qu'on a enterré l'électricité et les câbles électriques qui enlaidissaient le paysage urbain. Au-delà de ça, la question, et tu as raison Olivier, il faut trouver des solutions alternatives. Mais bon sang, moi je suis frontalier avec l'Allemagne. Déjà dans les années 80, tu avais des panneaux solaires sur les maisons. On peut pas considérer que l'Allemagne, c'est le pays le plus lumineux. Exactement. Pourquoi ? Parce que au fond, t'as cette espèce d'effet albédo, parce que le solaire, c'est pas que le soleil, c'est aussi la luminosité qui recharge en fait de l'électricité. Ensuite, tu as d'autres alternatives, qui est la méthanisation. Nous avons, par exemple, en Bretagne, des éleveurs porcines. Bon, hein. Ouais, mais enfin, je veux dire, la méthanisation, c'est quoi ? C'est lorsque tu as un élevage de porcs. Bah, le méthane remonte, tu le captes et tu le transformes en énergie.
Alors excuse-moi, mais la méthanisation, ça encourage une seule chose, l'élevage intensif, et tu commences à avoir des éleveurs qui se reconvertissent
Barbara,
dans la méthanisation.
Je vois anti-animal. Moi, je dis juste que je ne suis pas aussi manichéen que toi. J'essaie juste de dire la chose suivante, c'est qu'il y a actuellement des élevages qui existent. Occupons ces élevages existants. Toi, tu es tout de suite dans le fantasme de dire on va créer des élevages de porcs partout.
C'est pas du tout un fantasme. Va voir aujourd'hui les grandes exploitations qui sont en train de transformer.
Alors, j'essaie d'être factuel et je dis juste qu'il y a des élevages qui existent. Profitons du captage. Bah oui.
Alors, attends.
Cauter. Simplement, quand Stéphane dit les Français n'en veulent pas, le gouvernement a trouvé le moyen en fait de faire accepter ces installations, c'est en donnant de l'argent. Le gouvernement est prêt à indemniser davantage ceux qui acceptent des éoliennes chez eux.
Oui, mais Fred avait fait une chronique sur ça.
D'ailleurs, les agriculteurs l'acceptent. Hein, parce que quand tu donnes 15 ou 20 000 euros...
Frédéric Hermel avait fait une chronique sur ça, c'est-à-dire qu'une partie des villages, quand on parle de ce qui existe déjà en termes d'indemnité, ont reçu une indemnité financière, sauf qu'il y a aussi des personnes qui ne touchent pas d'indemnité financière et qui subissent la nuisance.
Oui, le voisin d'à côté qui n'a pas touché, voilà l'éolienne.
Ça, c'est la première chose. Mais au-delà il faut arrêter de tout monnayer quand même. On parle de la planète, on parle de l'écosystème, on parle de la faune, on parle de la flore. À quel moment on arrête de monnayer ce qui n'a pas de valeur, en fait? Parce que la préservation de notre nature et de la mer nature et de l'écosystème et de toutes les espèces, notamment en mer, n'est pas monnayable.
Enfin, c'est quand même moins polluant que le charbon.
Et moi, je suis quand même assez hallucinée de voir qu'on fait des grenelles pour l'environnement, qu'on fait des ci, des ça, et qu'après... On la bousille de l'autre côté. Et là où je rejoins Stéphane, quand j'étais éducatrice, j'ai beaucoup travaillé avec l'Allemagne et j'ai été surprise de voir que dans tous les bâtiments, et pas que dans les maisons, y compris dans les bâtiments publics, il y avait du solaire et qu'à Marseille, on n'avait aucun panneau solaire. Marseille a été rénovée de fond en comble pour l'événement Capitale 2013 de la culture. Tous les bâtiments qui sont sortis, il n'y a pas un panneau solaire, alors que chez nous, c'est le contraire. Il y a 4 jours de pluie dans l'année. Et je pense qu'au-delà de ça et au-delà de ce qu'a dit Barbara sur nos modes de consommation et de la sobriété qui s'impose à nous tous et pas que aux plus pauvres, il y a aussi des modes de construction dans le bâtiment qu'on peut choisir aujourd'hui, qui optimisent l'énergie. On a besoin de moins consommer en été, de moins consommer en hiver, etc. Et en fait, c'est un problème global qu'il faut prendre et pas juste faire comme tu le dis Barbara, des petites solutions à la petite cuillère. C'est un problème global auquel il faut s'attaquer. Il y a plusieurs portes d'entrée, les modes de construction, les matériaux, les modes de consommation et de production. Et surtout, quand on voit ce qui se fait ailleurs, on voit ce qui se fait ailleurs sans bousiller la planète, pour pas venir faire après l'année prochaine de manière hypocrite encore un Grenelle sur l'environnement qui est la planète.
Mais Cauter, c'est amusant parce qu'en même temps, alors on veut pas de charbon. Le nucléaire, on se dit, il faut quand même peut-être pas faire 100% de nucléaire, parce que c'est compliqué, ça coûte cher de construire des centrales. Vous ne voulez pas d'éolien, enfin ça va être compliqué à un moment
donné. On est très en retard, Olivier.
Mais le solaire, on ne pourra pas mettre du solaire partout. Parce que pareil, le soleil, c'est pas tous les jours.
Moi, la question
à Marseille, c'est tous les jours.
Tu ne pourras pas faire uniquement du solaire. Aucun expert te dit que tu vas pouvoir éclairer et fournir l'électricité que du soleil en France.
Comment expliques-tu que chez les Allemands qui ont un jour de soleil par mois,
ils ont du charbon surtout.
Oui, mais ils ont aussi du soleil.
Oui, mais très peu.
Et quand même, c'est le solaire. Excuse-moi, Olivier, ils ont du charbon parce qu'ils ont renoncé au nucléaire.
Oui.
La question, par exemple, l'autre fois, on parlait de l'éclairage public. Il pourrait très bien y avoir, comme ça existe dans certains pays, chaque candélabre, chaque lampadaire fonctionne en partie à l'énergie solaire. C'est-à-dire qu'il y a un petit panneau solaire au-dessus du lampadaire et qui permet de fournir une partie de l'éclairage, c'est-à-dire une partie l'ampoule, une partie le solaire. Le solaire, je suis d'accord, il ne faut pas que ça passe non plus, comme on le voit en Andalousie, où des terres agricoles ont été converties et artificialisées pour mettre des panneaux solaires sur des centaines et des milliers d'hectares. Dans tout, il faut de la mesure. Seulement, merci de
t'en satisfaire. Là, il y en a qu'un parc éolien.
Je suis content de t'en satisfaire parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait.
Bah, il y en a qu'un pour l'instant.
Non, ce que je veux simplement dire, c'est que on est dans un monde. On est dans un monde qui a des limites. La nature a des limites. La nature a une vulnérabilité, mais surtout, elle a des limites. Ça fait un siècle au moins, et sinon, allez, je vais être gentille, depuis 1960, qu'on considère, nous les Occidentaux, et je dis bien nous les Occidentaux, que notre progrès, notre consommation, notre production n'a pas de limites, qu'on peut pomper sur tout, que ça ne s'arrête pas, et que de toute façon, on trouvera toujours des solutions techniques ou technologiques. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation qui nous montre que non. Il y a des limites. Ces limites, soit on accepte de se les poser et on change de modèle, à la fois de modèle de production, mais donc aussi de modèle de consommation. Et encore une fois, je le dis, c'est le client qui fait la production. Si les gens arrêtaient de consommer un certain nombre de choses qui sont inutiles, non seulement à leurs besoins, mais aussi à la nécessité de la planète. Non, ça fera pas moins d'argent parce que ça sera un autre système économique. Maintenant, si on veut continuer, suis d'accord, si on veut continuer dans le même système de production, si on veut continuer dans le même système de consommation, alors il faudra mettre partout des éoliennes, partout des usines nucléaires et partout du solaire.
On peut vivre différemment.
Il est là. 8 milliards d'êtres humains sur Terre, on n'y arrivera pas.
Je voudrais qu'on aille au 32-16 écouter Quentin, qui est technicien dans la marine marchande. Bonjour Quentin.
Et bonjour les grandes gueules.
Parce que vous avez travaillé avec les chantiers de l'Atlantique.
Exactement.
Alors on écoute votre témoignage, dites-moi.
Alors moi c'est juste pour apporter une petite précision sur le parc éolien de Saint-Nazaire. J'ai travaillé effectivement pour les chantiers de l'Atlantique. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut savoir que toutes les éoliennes, à ma connaissance, arrivent aux États-Unis, à raison de 4 par bateau, ce qui nous fait juste une vingtaine d'allers-retours pour les bateaux, rien que pour amener les éoliennes. Donc au niveau écologie, là-dessus, on est déjà mauvais. Ensuite, tous les poses de câbles, tous les câbliers sont américains. Toutes les éoliennes, toutes les plateformes de pose d'éoliennes ne sont pas françaises, ont été fabriquées en Asie ou aux États-Unis. Donc au niveau écologie, rien que sur la pause, on est très très mauvais.
Tout ça pour la souveraineté, nous a dit monsieur.
Pour un rendement à 8%. Hein.
Donc alors c'est vrai, et c'est, Quentin, c'est vrai et c'est pas vrai. Vous avez en partie raison, parce qu'aujourd'hui, les pales, elles sont fabriquées par une filiale d'une société française. C'est dans une usine qui est à côté du port de Cherbourg, dans le Cotentin. D'autre part, Veolia a commencé depuis des années à se spécialiser dans le recyclage des pales d'éoliennes. Donc ça veut dire qu'on commence à avoir une filiale ou une filière de pointe française pour la fabrication et le recyclage. Donc là aussi, c'est en train de changer. Ça prend du temps, mais c'est en train de changer.
Oui, très bien, mais on met en place des équipements toujours un peu trop rapidement. C'est-à-dire qu'on va concevoir un équipement, mais comment le recycler derrière, c'est comme les voitures électriques. On met les batteries et après on s'occupe du recyclage.
Enfin, Quentin, vous avez raison sur le recyclage, mais pour les auditeurs et téléspectateurs qui sont sur RMC Story, effectivement, moi quand je vois le champ d'éolien qui est juste derrière Alain, je me dis que s'il y a un mouvement de plaque au niveau des sols et que tout ça s'effondre, comment tu vas récupérer
on l'a dit aussi pour les centrales nucléaires en disant celles qui sont installées, s'il y a une faille, si ça bouge, si ça se fissure.
Fessenheim était construite sur une faille, justement.
Ouais, alors à ce moment-là, on se rend compte.
Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment on choisit les sites, parce que là, donc, c'est au large de Saint-Nazaire, Pouliguen, Croisic, La Baule, mais enfin, il paraît que d'ailleurs.
Ça se voit de la Vendée jusque dans le Morbihan.
Alors, pas le Touquet, hein.
Il y en a un qui est prévu au large du Calvados, mais je suis pas sûr que Deauville soit touché, Centre Manche 2. Il y en a un prévu en Méditerranée, mais qui a priori sera plus loin, ne se verra pas. Visiblement, on n'en prévoit pas en Corse, je sais pas pourquoi. Trêve de plaisanterie, mais comment on choisit? Est-ce que les sols sont utilisés?
Mais au-delà des élus et du bon vouloir des élus, j'espère qu'il y a quand même des géologues.
Il y en a aussi prévu. Oléron, il y a un gros débat à Oléron parce que.
Il y en a chez Etienne Hennig aussi.
vois, parce qu'il faut entretenir ces choses-là. Il faut le recycler après, mais il y a aussi un entretien de ces gigantesques.
Il y a une complicité des élus aussi. Il faut arrêter parce que maintenant, vous avez certains élus, une fois que c'est fait et que les gens se plaignent, oh, ils trouvent ça horrible, ils demandent plus d'indemnités parce que c'est tout ce qu'ils demandent à l'État. En réalité, ils se plaignent des éoliennes pour dire on veut plus d'argent, on veut plus d'indemnités pour les nuisances causées. Mais que ne vous êtes-vous mobilisé depuis 10 ans pour empêcher réellement? Parce que je suis désolée, il y aurait des moyens. Tout ce qu'on a, c'est Greenpeace ou certains qui, avec des petits canaux, essaient de faire quelque chose. Ils y peuvent rien. Donc, s'il y avait eu une véritable fronde, mais sauf qu'il n'y en a pas. Parce que, sur le moment, l'État, comme d'ailleurs, oui, il y a énormément de recours. C'est pour ça que ça ralentit, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais en réalité, l'État, que ce soit sous Sarkozy, sous Hollande ou sous Macron, arrose. C'est une forme pour moi de corruption. Parce qu'en réalité, on impacte à long terme l'avenir de la planète.
Non, mais ce qui est intéressant, Barbara, c'est que les écologistes sont quand même plus pro-éolien. Voilà. Mais on a aussi des ONG, notamment, qui sont préoccupées par la conservation des oiseaux, notamment sur celui de l'Hérault, parce que là, c'est un vrai. Donc en fait, il y a un combat entre des gens qui a priori pensent la même chose, mais
la
qui
Ligue
ne sont
de
pas
protection
d'accord.
des oiseaux de Bougrain-Dubourg, voilà. Elle est pas du tout pro-éolienne.
Je remercie Quentin
et Europe Écologie Les Verts et Quentin, pour la GPA. Donc de toute façon, ils ont aucun sens de ce que c'est vraiment.
Tu veux dire que les Verts produisent du vent, c'est ça?
Non, j'ai dit que entre écologistes, effectivement, on voit qu'il y a des injonctions contradictoires.
Je remercie Quentin qui était avec nous et qui nous a alerté simplement sur le fait que ce qui revenait à l'éolien, ça avait été transporté par bateau venant des États-Unis, que c'était aussi fabriqué par les Américains, ce qui n'était pas forcément très écologique.
Un mauvais bilan carbone, quoi.
David nous appelle de la métropole lyonnaise. Bonjour, David.
Bonjour à tous.
Les éoliennes, on continue, on accélère? Dites-moi, David.
À fond, à 200%.
Pourquoi?
Parce que c'est nécessaire. Certes, j'ai entendu là vos explications, voilà, bilan carbone, de transport, de matériel, de... Ok, très bien.
Ça, et de rentabilité aussi.
Et de...
D'efficacité.
La rentabilité qui est et d'efficacité. Une éolienne démarre et commence à produire à partir du moment où il y a une brise de 10 km/h. Ce qui est quand même relativement souvent, quand même, quand on est notamment en zone maritime. Voilà. Et quoi qu'il en soit, techniquement, elle est obligée de s'arrêter parce que la mécanique ne pourrait pas supporter des vents trop forts au-delà de 80 ou 90 km/h. C'est quand même, voilà, ça nous laisse quand même une plage de production qui est relativement.
Oui, mais c'est une production intermittente, c'est ça que je veux dire. Oui. Contrairement à une centrale nucléaire qui peut produire 24 heures sur 24.
Pourquoi voulez-vous qu'on accélère?
Oui, mais alors, la centrale nucléaire, en termes d'autonomie, il n'y a rien de plus. Pardonnez-moi, je vais être hyper vulgaire. De plus débile que ça. clairement, non, mais il faut être clair. Les ressources basiques, les minerais nécessaires pour le fonctionnement du réacteur, on ne les produit pas, c'est pas dans le champ de M. Lambert au milieu de la Corrèze. Hein, on est obligé d'aller les chercher très très
loin.
Oui,
mais c'est beaucoup moins dépendant.
Oui, comme les métaux précieux pour fabriquer les milliards de smartphones qu'on achète en permanence.
C'est moins dépendant que du pétrole ou du
alors
gaz.
Alors, vous parlez des smartphones. Les gens se plaignent en disant que les éoliennes, c'est moche. Ok, très bien, mais on a besoin d'électricité. On a un besoin grandissant d'électricité. Vous parlez des smartphones, les gens sont ravis, se plaignent auprès des opérateurs parce qu'ils n'ont pas de réseau, mais ils ne veulent pas d'antenne devant eux. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Soit on veut de l'électricité, et effectivement, on est obligé de travailler et de déployer des solutions alternatives.
On est obligé. Est-ce qu'on ne s'est pas imposé cette obligation? On avait l'électricité avant d'avoir des parcs éoliens en France.
Bah oui. Mais bien sûr.
Donc c'est une obligation. On estime que pour effectivement être moins dépendant du carbone, on passe par l'éolien.
Mais non, mais pendant des millénaires, on a réussi à vivre sans électricité aussi. Si on va...
Non.
Et David, juste une question. Une question, David. Donc la question du bien-être des mammifères marins, ça, c'est pas très grave parce que vous les voyez pas. En fait, ils sont sous l'eau, donc c'est pas grave, ça.
Justement. Il est quand même prévu que lorsqu'il y a un champ éolien maritime, c'est une zone de protéger au niveau de la pêche, clairement. On sait que j'ai lu il n'y a pas très longtemps de ça, c'était en Nouvelle-Zélande ou en Australie, qui avait un champ éolien qui avait été installé il y a déjà quelques années en arrière. Des associations se sont mis vent debout, hein, pour des éoliennes, ça tombe bien, vent debout, face à cette installation pour protéger les fonds marins. Au bout de quelques années, là, ils avaient prévu, du coup, de réduire la zone de protection autour de ces éoliennes. Les mêmes associations se sont remises également vent debout là-dessus, parce qu'en disant, ben non, du coup, ça a été devenu une zone protégée, et du coup, on s'est rendu compte que la flore et le vivant autour de ces éoliennes s'est développé de façon massive
Mais c'est ce que je viens de, c'est ce que j'ai expliqué, ça s'appelle l'effet récif. Mais créer des récifs artificiels qui vont éventuellement même amener des espèces invasives qui sont en train de bouleverser la population naturelle d'un espace maritime, excusez-moi, c'est grave. C'est comme le fait d'instaurer des espèces qui sont des espèces nuisibles,
David,
qui arrivent dans des nouveaux espaces de production. Donc moi je vous parle des mammifères sauvages, je vous parle pas des poissons.
Exactement.
Qu'on va pêcher.
Non,
pareil, David, merci. On va continuer la discussion sur les éoliennes dans un instant avec vous au 32-16, comme Quentin, comme David qui était là. Et puis on aura un représentant justement de France Éolienne pour donner, selon lui, les bonnes raisons de continuer d'implanter les éoliennes. Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, c'est tous les jours en direct, c'est avec vous au 32-16, bien sûr. On parle des éoliennes, du président de la République qui inaugure aujourd'hui au large de Saint-Nazaire le premier d'une longue série de parcs éoliens en mer. Il veut accélérer le déploiement, le chef de l'État. C'est Fabrice Cassin qui est avec nous, qui est avocat spécialisé en droit de l'environnement et membre de l'association France Énergie Éolienne. Bonjour monsieur Cassin.
Bonjour Alain Marchal.
Bonjour, merci d'être avec nous. On est ici dans les GG assez critiques quand même envers les éoliennes. Quelles sont les bonnes raisons d'accélérer alors l'implantation des parcs éoliens en France ?
Elles sont multiples, les raisons d'accélérer le développement et le déploiement de l'éolien. Et j'en retiendrai deux essentiellement. La lutte sur le climat, la réduction, donc l'impératif de neutralité carbone à 2050 et la souveraineté énergétique. La souveraineté énergétique qui commande d'avoir une indépendance nationale dans la production électrique, de ne pas importer. Le vent ne s'importe pas, le soleil ne s'importe pas. Désormais, nous avons... Donc,
sauf qu'il n'y en a pas toujours du vent et du soleil.
Parfois, on peut même donner notre production à nos voisins parce qu'il y a solidarité européenne.
On a un impératif,
allez-y.
On a un impératif climatique et un impératif de stratégique, désormais. La guerre en Ukraine, l'indisponibilité du parc nucléaire et la sécheresse de l'été ont montré que trois phénomènes se sont conjugués pour aboutir à une baisse historique de la capacité de production française, qui traditionnellement, la France est exportatrice d'électricité, et au contraire exporte au bénéfice de ses voisins. Et juste au moment crucial d'une envolée des prix, nous sommes en situation d'importation.
Mais pardon, je coupe la guerre en Ukraine.
Si le programme était à jour, si nous avions respecté les objectifs décidés en 2009, hein, c'est le programme éolien, nous serions avec un mix énergétique équilibré qui permettrait de compenser.
Surtout si on n'avait pas fermé la moitié du parc nucléaire pour cause de maintenance, par non-prévisibilité et non-stratégie de l'État aussi. Hein, pour aider.
Alors, vous soulignez un point qui est très juste. Attention, notre parc nucléaire a été construit dans les années 70 en 10 ans pour couvrir très largement et même exporter de l'électricité. Mais ce parc nucléaire a une durée limitée. Il y a un non-dit français qui est que les centrales nucléaires, notre parc nucléaire de 52 réacteurs, a une durée de vie limitée de 40 ans plus 20 ans prolongation. On peut même aller, peut-être certains disent, un peu plus loin, à 80 ans. Mais nous avons une falaise à 2060 qui est de tout... À 2060, ce sont
parce
les générations futures,
les parcs
éoliens.
Parce que les éoliennes, ça dure une éolienne, ça dure aussi longtemps qu'une centrale nucléaire, vous allez me dire peut-être.
20-30 ans,
mais
les éoliennes.
Il n'en demeure pas moins que cette capacité de production fantastique dont nous disposons d'électricité nucléaire doit être complètement renouvelée à 2060.
Ah ben oui, mais je suis bien d'accord avec vous, monsieur Cassin, je
voudrais s'en ranger,
mais ça veut dire une stratégie de long terme. Mais monsieur Cassin, je suis d'accord avec vous, mais c'est une stratégie de long terme que les gouvernements que les Français ont élus auraient dû continuer à soutenir. Au lieu de ça, monsieur Macron, par exemple, 2019, il arrête le programme Astrid, il arrête tout ce qui permettrait, par exemple, le recyclage des déchets nucléaires pour continuer à faire du combustible. Il arrête de former des personnels pour la maintenance. Donc, excusez-moi, je suis bien d'accord avec vous, mais quand on a des gouvernances successives qui pratiquent une véritable gabegie avec la souveraineté énergétique du pays, c'est vers eux qu'il faut se tourner, hein, c'est pas vers les Français et leur imposer l'éolien en échange en disant finalement, comme on peut pas avoir le nucléaire, on va avoir l'éolien.
Si vous me permettez, c'est 2015, hein, c'est sous François Hollande, c'est la loi qui est votée à cette époque-là, je vous le rappelle, à la fois par le Sénat et par l'Assemblée nationale, donc par la majorité droite et gauche. Tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il y a cet horizon de 2060, c'est du long terme. C'est du long terme. Et pour assurer ce long terme et le renouvellement.
Aujourd'hui, si on revotait, ce serait différent.
il nous faut des énergies qui permettent, il nous faut de l'énergie, de la capacité de production électrique nationale, et l'éolien est cette capacité de production qui permet d'assurer le renouvellement.
On a compris, monsieur Cassin, mais monsieur Cassin, le problème, c'est que les Français, lorsqu'on les interroge, ils sont très critiques sur l'éolien. Il y a beaucoup de recours, aussi bien d'ailleurs l'éolien terrestre, alors il y a encore plus de critiques, mais aussi l'éolien en mer. Par exemple, les projets, notamment à Oléron, font l'objet d'un débat public qui est assez chaud, parce que on s'inquiète sur la conservation des oiseaux, on s'inquiète aussi pour la pêche, etc. Donc, vous nous présentez l'éolien comme la solution magique au réchauffement climatique. Quand on regarde finalement les Français, alors soit les Français sont totalement ignorants, mais les Français majoritairement rejettent, trouvent ça en plus. Alors il y a aussi la question de la mocheté du truc. Après, on peut trouver ça beau, il y en a qui trouvent ça beau, d'autres qui trouvent que ça abîme les paysages, que la ligne d'horizon faite d'éoliennes, c'est quand même pas terrible. Mais bon, à la limite, on écarte cet argument. Mais ce que ça peut aussi apporter de négatif sur la biodiversité. Là, je vous entends pas, monsieur. Vous dites c'est formidable, mais il y a aussi
mais les impacts sont parfaitement maîtrisés. Ce sont des impacts à l'iPhone. C'est parfaitement maîtrisé. On a un retour de 20 ans là, sur les impacts biodiversité. Comme toute énergie, comme
sur
toute
les oiseaux migrateurs.
Comme toutes les oiseaux migrateurs, les rapaces. Les chauves-souris. Vous pouvez avoir, selon les zones d'implantation, ce type d'éléments. Mais nous avons des capacités. Mais les parcs se voient imposer des bridages, ce qui fait que d'ailleurs, souvent, on leur reproche de ne pas tourner, mais parce qu'il y a des bridages, des arrêts de machines.
C'est dangereux pour les oiseaux.
Si vous voulez, c'est parfaitement maîtrisé, c'est-à-dire qu'il y a des capacités d'arrêter.
C'est maîtrisé, on arrête pour protéger.
Éviter une mortalité de chauves-souris, les espèces visées, on les connaît.
Donc ça tue les oiseaux.
Non.
Puisque vous dites on arrête pour que la mortalité soit un peu moins importante.
On revient à cette idée. Je veux dire, vous avez un contrôle. Non, vous avez un bridage.
Si vous bridez les éoliennes, c'est pour protéger un peu plus les chauves-souris. Donc ça veut dire que si on faisait fonctionner l'éolienne 24 heures sur 24, on en tuerait plus.
Vous êtes d'accord avec moi qu'il faut concilier des systèmes pourquoi on arrête le parc nucléaire? Pour vérifier des questions de sécurité. Parce qu'on a une maintenance programmée.
Mais le parc nucléaire ne tue pas les oiseaux.
Il y a des arrêts exceptionnels, de la même manière, des arrêts exceptionnels en raison des fissures sur les circuits de refroidissement. C'est une question de sécurité.
On arrête le parc nucléaire de la même manière,
vous arrêtez une centrale de production éolienne pour assurer une conciliation et ne pas provoquer des surmortalités d'oiseaux.
Monsieur Cassin, je vous remercie. Voilà.
J'avais une question intéressante.
C'est pas facile. Alors, vas-y. Il nous reste 3 minutes.
Allez, en 2 secondes, moi, j'entends le wording, le langage de communication. J'aime même me réconcilier avec l'éolien. Et là, actuellement, on m'avait pas réconcilié. Notamment quand vous parlez de neutralité carbone, moi, j'aimerais vous poser la question du coût total d'obtention et du bilan carbone de l'éolien, s'il vous plaît, sachant qu'on connaît qu'il y a une durée de vie de 20 ans. Quel est le bilan carbone réel de l'éolien, s'il vous plaît?
Allez-y, monsieur Cassin, 30 secondes. Du fond.
Mais ce n'est pas, je veux dire, vous avez un bilan carbone qui mobilise de l'acier, des bétons pour assurer une production d'électricité qui, elle, ne produit pas de gaz à effet de serre.
Il est
tout à fait identique à celui que peut avoir le nucléaire ou peut avoir d'ailleurs les moyens.
Le MEDEF a régulièrement calculé le bilan carbone, combien coûte un euro, combien ça rapporte lorsqu'on investit. Moi, je suis pas convaincu que l'éolien rapporte autant que vous
fabriquez une centrale nucléaire. Ça a du bilan carbone aussi quand la fabrication.
Positif. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir le coût total. On a un bilan carbone positif.
C'est de la production électrique. C'est une centrale de production électrique.
Vous parlez pas du bilan carbone. Le bilan carbone est positif ou négatif?
Comme vos déplacements.
C'est pas la même chose, puisque vous avez commencé par nous dire que on luttait contre le réchauffement climatique.
Neutralité carbone.
Quand je prends l'avion, je ne lutte pas contre le réchauffement climatique. C'est pas le même argument.
C'est quoi la neutralité carbone?
La neutralité carbone à 2050, c'est le fait que l'ensemble des activités humaines.
Vous, l'éolien.
Dans le monde. Mais c'est une des activités. C'est toutes les activités. Russie doivent, on doit émettre, on doit absorber la capacité carbone qui est émise chaque année. Donc le bilan carbone doit être positif dans la mesure où vous absorbez du carbone. Donc si vous développez des puits carbone comme les forêts, comme des technologies que l'on doit inventer pour arriver à capter du carbone, alors on arrivera à un niveau global.
Alors,
vous passez du particulier à du général.
Une dernière question pour vous, monsieur Cassin, Kauter, vas-y rapide.
Moi, je trouve tout ça très, très hypocrite, monsieur, parce que on va encore créer une dépendance parce que c'est pas fabriqué chez nous, c'est fabriqué aux États-Unis. On va encore bousiller la planète.
Non, le vent ne se fabrique pas aux États-Unis.
Non, mais de quoi faire les éoliens?
Monsieur, laissez-moi terminer. Je vous écoute tous depuis une demi-heure.
Le vent, vous ne l'importez pas.
Je parle pas du vent, monsieur. Je parle de l'éolienne à elle-même. Ne me prenez pas pour une idiote. C'est très, très méprisant.
Attention.
Donc, monsieur, les éoliennes ne sont pas fabriquées en France. Il y a que les pales qui sont fabriquées en France. Elles sont amenées. On a eu Quentin juste avant. Chacun sa spécialité. On a eu quelqu'un qui nous a expliqué qu'elles étaient livrées des États-Unis en France, à part 4 sur des bateaux. Pareil pour les câblages. Donc on se crée encore une fois une dépendance avec un pays extérieur qui est de l'autre côté de la planète.
Monsieur.
Et en plus, excusez-moi, ils vont venir.
N'écris pas, Kauter, on t'entend.
Excusez-moi, ils vont venir. Ce sont des oiseaux migrateurs qui vont les amener ou c'est encore des bateaux et on va encore éclater la planète pour les amener chez nous, etc. Donc tout ça est hypocrite. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur, à vivre en face de ces éoliennes et à faire vivre vos enfants face à ces éoliennes? Non, et j'en suis sûr que non. Vous imposez aux autres pour votre business. En fracassant la nature.
Attends, Kauter, si tu fais les questions et les réponses, c'est pas pratique. Allez-y, M. Cassin. Est-ce que c'est fabriqué en France, les éoliennes?
Les communes qui accueillent des parcs éoliens sont parfaitement favorables et sont des communes sur lesquelles les habitants ont émis des avis favorables.
Ça
sinon, le parc ne se ferait pas.
Il y a des recours à chaque fois, et là vous avez toute la population.
Ah, Cacérès, ils sont d'accord avec les éoliens.
Il a pas eu la tâche facile. Merci, monsieur Cassin. C'est pas simple pour lui. Merci d'avoir été avec nous. Cela dit, effectivement, il y a des filiales aujourd'hui en France qui commencent à fabriquer les éoliennes. On est peut-être un peu en retard, mais ça s'y met aussi.
Tu as raison, Alain, mais on est loin de son discours marketé, souveraineté énergétique, neutralité carbone, lutte contre le réchauffement climatique. Quand on lui pose la question du bilan réel carbone et économique de l'éolien, il ne sait pas répondre. Et moi, ça me choque. Alors, j'en ai ras-le-bol de l'écologie marketée.
Nous sommes à la fin de la discussion. Est-ce qu'on doit accélérer l'implantation des éoliennes en France? Question qui est posée.
Oh, tiens.
Voilà. Non à 81%.
Ça, c'est un vrai sujet.
Monsieur Cassin, il a dit que tout le monde était d'accord.
1300 personnes qui ont voté.
Les gens du Café Ré n'ont pas voté.
Non.
Sur Twitter.
20 000 noms.